CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour et bienvenue dans Entrepreneur de légende, ce podcast qui vous présente ces parcours inspirants qui sont à l'origine des plus grandes réussites économiques. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné par mon acolyte Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Sylvain, tu es économiste chez Asterès et tu es aussi auteur des livres Entrepreneur de légende. Et l'entrepreneur du jour est incontournable si on suit l'actualité à l'heure où l'on enregistre ce podcast, puisqu'il vient de réaliser le premier vol entre guillemets spatial, touristique, par ses propres moyens avant son concurrent Jeff Bezos. Il s'agit bien sûr de Richard Branson et vous allez le voir, toute son histoire est basée sur des paris fous qui s'avèrent souvent payants.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, Richard Branson est né en 1950 dans la banlieue de Londres.
Oui, en effet, il est né dans une famille plutôt aisée, on va dire la classe moyenne supérieure. Son père est avocat, donc c'est une famille aimante, enfin dans des conditions tout à fait favorables. Il a une enfance plutôt heureuse. Alors sauf à l'école, où il a toujours eu de grosses difficultés. Plus tard, on s'est rendu compte qu'il était très fortement dyslexique. Et puis c'est un enfant qui aime bien l'action, qui aime bien bouger. Être assis sur le banc d'une classe, ça lui plaît pas trop. Donc à l'école, ça se passe assez mal. Il est souvent puni et rarement félicité pour ses résultats. Et dès l'enfance, ce qui l'intéresse, c'est de lancer des projets, c'est d'entreprendre, en fait, même si le mot n'est pas forcément celui qu'il avait en tête. Donc dès l'âge de 13 ans, avec son copain Nick Powell, qui sera le cofondateur plus tard de Virgin, il commence à lancer un petit business dans la plantation de sapins. Donc il plante des sapins pour essayer de les revendre à Noël. Bon, alors il y a des lapins qui viennent tout bouffer, donc évidemment ça marche pas.
Mais ce premier échec, ça l'empêche pas d'avoir d'autres idées après.
Non, il a d'autres idées, donc il tente de lancer plein de petites affaires, notamment par exemple un élevage de perruches, donc un élevage d'oiseaux, bon, qui marche pas parce que sa mère en a marre de laver la cage et qu'elle laisse la porte ouverte. Donc il lance comme ça des petites affaires, mais qui évidemment ne vont pas très loin. Mais pourtant, c'est vraiment ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît, c'est d'avoir des idées, c'est d'essayer de les porter. Il veut pas faire une vie scolaire ou intellectuel, et donc assez jeune, il quitte l'école.
Il quitte l'école à 16 ans.
À 16 ans, voilà, puisque bon, de toute façon, l'école, il n'aimait pas, il n'avait pas de bons résultats, c'était pas du tout son truc.
Et ça doit rendre ses parents tristes quand même.
Oui, alors son père voulait qu'il soit avocat comme lui.
Ah oui, donc c'est raté.
Mais là, c'est clairement raté, mais bon, il se fait une raison, il comprend bien que son fils ne deviendra pas avocat, que c'est pas du tout fait pour lui, et donc il quitte l'école, et son professeur lui dit tu seras soit milliardaire, soit tu finiras en prison. Bon, évidemment, on sait la suite, il est devenu milliardaire.
Il y a eu un peu les deux.
Alors, il y a eu un peu les deux. On verra qu'il y a eu un court épisode de prison. Mais globalement,
on ne spoil pas le reste.
Globalement, il est quand même plutôt devenu milliardaire que prisonnier.
Et donc, du coup, il décide donc de lancer une première affaire et ça sera un magazine.
Oui, donc en 68, donc toujours avec son copain Nick Powell, il lance un magazine qui s'appelle Student. Donc on est dans les années 60, c'est un peu le renouveau culturel, la libération sexuelle. Et il se place clairement dans cette vague antimilitariste, critiquer la guerre du Vietnam, etc. Donc Student, bah, comme son nom l'indique, hein, étudiant, c'est un magazine pour les jeunes où on parle de musique, de cinéma, de sexualité, un peu de politique pour critiquer les Américains au Vietnam, etc. C'est un magazine qui est lancé tout autant comme par une bande de copains que par une entreprise très structurée. Ils sont donc, il y a bien sûr Branson et Nick Powell qui sont un peu les fondateurs, mais il y a un peu toute une bande qui gravite là autour.
Ils sont bénévoles souvent.
Voilà, souvent bénévoles ou plus ou moins salariés. Enfin, qui n'ont pas forcément un statut très défini. Et alors bon, beaucoup de journaux meurent assez rapidement, mais Student avec Branson qui lui a clairement la tête sur les épaules, parvient à obtenir, on va dire, un petit succès autour de 50 000 exemplaires, ce qui est pas mal, et parvient à, on va dire, ne pas perdre d'argent. Alors, c'est pas encore la fortune, mais en tout cas, le journal parvient à se maintenir à flot financièrement.
Le journal devient petit à petit populaire, ça lui permet de rencontrer du monde, notamment.
Oui, alors parmi les interviews les interviews célèbres qu'il arrive à faire, il y a Mick Jagger. Donc un peu au culot, il va essayer de contacter des stars, des gens connus pour faire parler de son journal. Donc la plupart du temps, ça marche pas. Mais parfois, il arrive à avoir des interviews un peu choc, comme Mick Jagger, qui permettent au journal de se faire connaître et d'attirer des lecteurs.
Mais malgré ce succès un peu populaire, il ne veut pas en rester là.
Oui, donc il se voit comme un entrepreneur qui a toujours plein d'idées. Pour lui, le magazine, c'est un premier pas. Et vu qu'il a un peu mis avec ce magazine un premier pied dans la musique, en 70, il se lance dans la vente, donc au début par correspondance, de disques. Donc sous la marque Virgin.
Il va créer Virgin, donc.
Voilà, au début, c'était Student, le magazine, et le nom Virgin apparaît pour l'entreprise de vente de disques. Donc c'est un nom qui est né comme ça, spontanément, un peu dans leur bande de copains. Il y a quelqu'un qui a dit, ah bah tiens, ça pourrait être Virgin, parce qu'il y a le côté un peu provocant, vierge, et il y a le côté nouveau, quoi. Un peu les jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées.
Oui, c'était vraiment ancré dans son temps, en 70, la libération sexuelle.
Le nom, la marque, en fait, est très bien trouvée. Elle est née spontanément, c'est pas du tout une analyse de marché faite par des cabinets spécialisés, etc. C'est né comme ça, un copain qui a lancé l'idée, mais c'était très bien trouvé. Et donc l'entreprise Virgin se lance donc au début dans la vente par correspondance de CD, avec l'idée de casser les prix.
Oui, c'est la stratégie du départ.
C'est la stratégie du départ, puisque les vendeurs de CD de l'époque avaient, on va dire, une sorte d'oligopole, et ils s'entendaient un peu entre eux discrètement pour que les prix ne baissent pas trop. Et la stratégie, c'est de casser les prix. Et donc, Michael, tu disais que Branson a été un petit peu prisonnier.
On y vient.
Dans sa vie, notamment, parce que pour frauder les taxes, en fait, il faut dire ce qui est.
En fait, pour vendre ses disques moins chers, il fallait bien trouver une solution.
Oui, alors, pour vendre ses disques moins chers, une idée qu'il avait, c'est de faire croire qu'il partait à l'export pour ne pas payer l'équivalent de la TVA, disons. Et donc, en fait, il magouillait en faisant croire que ses disques partaient à l'export pour ne pas payer les impôts. Mais il ne partait pas. Et évidemment, le fisc s'en est assez rapidement rendu compte.
Là, ils ne sont pas bêtes.
Ils ne sont pas bêtes. Il a passé, effectivement, quelques nuits en prison. Mais après, il est vite rentré dans le rang quand même. Et donc, au début, il vend ses disques uniquement par correspondance, mais il se dit qu'il y a mieux à faire. Et donc, en 71, il ouvre le premier magasin, donc Virgin Records, qui est là un magasin de vente de disques physiques. Et donc là, l'idée, c'est plus de casser les prix, mais c'est de créer une ambiance conviviale, puisque les magasins existants, c'était assez froid, c'était des étagères de disques et point final. Et donc là, il y a un peu l'idée de créer un endroit où on vient pas seulement acheter un disque, mais on vient passer un moment. Il y a des canapés.
On peut écouter les disques.
On peut écouter les disques. Il y a une ambiance agréable. Et donc c'est l'idée de créer un magasin où on vient pour passer un bon moment tout autant que pour acheter un produit. Et ça marche très bien.
Et ça, c'est le succès. Ouais.
C'est le succès. Et donc sa chaîne s'étend très rapidement en Angleterre et puis après à l'étranger.
Et en parallèle, parce que la chaîne s'étend comme tu le dis, mais en parallèle, lui, il décide de se lancer aussi dans la production d'artistes.
Oui, voilà. Donc, en fait, il est rentré dans le monde de la musique et il va se diversifier dans cet univers-là. Et donc, à partir de 72, il commence...
Donc, très rapidement, en fait.
Oui, en deux ans, en fait, hein, entre ses débuts dans la musique et le moment où il devient aussi producteur. Donc, il commence à produire des premiers artistes, notamment ceux qui ont été recalés, un peu des inconnus qui ont été recalés sur les grosses maisons de production. Et alors, bon, il y a évidemment eu beaucoup d'échecs, mais il a eu quelques beaux succès. On peut penser à Mike Oldfield dont personne n'avait voulu, mais Branson a eu le flair, disons, de le produire. Et donc là aussi, c'est un succès très rapide. Et dès le début, quoi, au bout de quelques années, il devient multimillionnaire et un personnage très en vue du monde de la musique, en tout cas en Angleterre.
Oui, il devient multimillionnaire à 23 ans, c'est fou.
Oui, pour quelqu'un qui a quitté l'école à 16 ans, c'est vrai que c'est une très belle réussite.
Mais ce succès, ça devient une personnalité un peu en vue, mais il ne veut encore une fois pas en rester là.
Oui, donc son idée, c'est vraiment d'entreprendre dans toutes les directions. Donc une première diversification au début des années 80, c'est les jeux vidéo avec Virgin Games. Et une autre diversification encore plus marquante pour l'entreprise et pour le personnage, c'est qu'il va s'attaquer, un peu contre toute attente, je dirais, au transport aérien.
Un peu contre même son associé.
Oui, alors son associé de toujours, Nick Powell, qui l'a suivi dans toutes ses aventures, quand il dit « je vais m'attaquer au transport aérien et à la position ultra-dominante de British Airways », lui, il dit « stop », il dit
«
tu vas te ruiner, tu vas dans le mur, qu'est-ce que c'est que cette idée ?» Donc son associé, on va dire historique, ne le suit pas, lui revend ses parts. Donc Richard Branson lui rachète ses parts et devient un peu le seul maître à bord. Et il a le projet un peu fou, en tout cas tout le monde pense qu'il est fou, de se lancer dans le transport aérien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on connaît Ryanair, on connaît EasyJet, on connaît toutes ces compagnies. Dans les années 80, il y a quelques très grosses compagnies établies, donc British Airways en Angleterre, Air France en France, etc., qui ont un quasi-monopole sur le transport aérien. Et venir essayer de casser ce monopole-là et de se faire une place, ça paraît un projet un peu fou. Mais lui, il y croit. Il va s'associer avec un entrepreneur qui avait créé une compagnie qui desservait les îles Falkland, bon, qui avait fait faillite, etc. Et il va avoir un premier avion, louer un premier avion pour faire des vols transatlantiques entre Londres et New York. Et donc, c'est Virgin Atlantic.
En 84, il lance Virgin Atlantic.
En 84, il se lance avec un seul avion au départ dans le transport aérien entre Londres et New York.
Et lui, donc, tu l'as dit, hein, ça marque un peu le personnage, la personnalité du personnage. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre une place parce qu'il trouve qu'il y a un manque dans la gestion des clients par les autres compagnies. Il trouve qu'il y a une place à prendre quand même.
Oui, alors sa stratégie de diversification, c'est de se dire où est-ce que je vois un secteur où je peux faire mieux que les autres. Il n'y avait aucun lien évident entre la musique et le transport aérien, mais cette volonté de s'attaquer au transport aérien est partie, disons, d'un constat, c'est que quand il prenait l'avion, il trouvait que le service client était catastrophique pour un prix des billets très élevé. Et donc il s'est dit, moi je pense que je peux faire un bien meilleur rapport qualité-prix, puisque British Airways, qui est un peu en quasi-monopole, s'endort sur ses lauriers. Et donc il perçoit, disons, un défaut dans le service proposé, ou en tout cas quelque chose que lui peut faire mieux, et donc, il décide de se lancer. Et en fait, c'est un peu sa marque de fabrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il pense qu'il peut faire mieux que l'offre existante, il va se lancer dans différents secteurs qui n'ont en fait pas grand-chose à voir les uns avec les autres.
Une autre marque de fabrique de Richard Branson qu'on va découvrir à ce moment-là, c'est que pour concurrencer British Airways, qui a des moyens évidemment colossaux en promotion, il va un peu devenir l'ambassadeur de son produit.
Oui, donc c'est vraiment la marque de fabrique de Richard Branson, c'est qu'il est un peu Virgin, il représente Virgin et il comprend que pour résister à un mastodonte comme British Airways, il faut qu'il ait de la présence médiatique, il faut qu'on parle de lui. Et donc, il va se mettre à faire alors un petit peu le pitre ou à se lancer dans des aventures un peu extravagantes. Alors, il y en a énormément, on ne va pas tous les lister, mais alors il va commencer à traverser l'Atlantique en ballon, il va traverser des océans en bateau. Alors, plus tard,
chaque fois, c'est des échecs, hein, presque. Il y arrive quasiment pas.
Souvent, c'est des échecs. Plusieurs fois, il se met en danger. Il ne passe pas très loin de la mort, hein, il faut dire ce qu'il est, dans des aventures un peu folle, mais c'est vraiment l'idée. Alors déjà, c'est quelqu'un qui aime le défi, qui aime ce genre de pari, il fait ça aussi par goût, mais il y a aussi bien sûr une idée marketing derrière, qui est de faire parler de lui, et donc indirectement de faire parler de sa marque, de Virgin, et donc il est vraiment le personnage emblématique, le visage de son entreprise, et donc à chaque fois qu'il fait parler de lui, en fait il fait sa pub, et il fait la pub de Virgin en même temps, et gratuitement.
Et il croit tellement en Virgin Atlantic que contre toute attente, en 92, il va faire une prise de risque énorme et il va revendre Virgin Records.
Oui, donc de manière assez inattendue, puisqu'il avait fait, on a vu, fortune dans l'industrie de la musique.
Mais c'était un peu ça va chaler.
C'était ça va chaler, c'est de là d'où il venait, là où il avait réussi, où il s'était établi. Et c'est vrai que c'est un coup de poker au début des années 90. Il vend l'activité de disque et pour tout miser sur le transport aérien. Donc tout le monde le prend un petit peu pour un fou, et c'est vrai que c'était très audacieux. Alors ça s'est révélé payant, puisque maintenant on connaît l'histoire.
Ah ouais, l'industrie du disque
s'est effondrée, et l'industrie du transport aérien, elle, a prospéré avec toujours plus de gens qui ont pris l'avion. Donc avec le recul, ça a été une stratégie tout à fait payante, mais c'est vrai qu'au moment où il fait ce choix-là, c'est une prise de risque absolument gigantesque.
Et donc là, on parle de l'aviation, mais la compagnie, elle a quand même continué à se diversifier. Ça devient une sorte d'énorme compagnie avec plein de branches.
Oui, alors Virgin, la stratégie, c'est de reprendre toujours le nom Virgin et de le répliquer dans tout un tas de secteurs divers et variés qui n'ont à peu près rien à voir les uns avec les autres. Donc il y a eu à peu près 300 diversifications ou tentatives de diversification. Certaines ont avorté très vite, il a pas insisté. Un des plus gros fiascos, c'est Virgin Cola.
Évidemment.
Donc il avait, dans les années 90, essayé de se lancer sur le marché des sodas.
Est-ce que tu as bu un Virgin Cola dans ta vie ?
Ah non, jamais.
Ah ben voilà.
Elle n'a pas duré très très longtemps. Ça a été assez vite
Bah là, c'est dur de se battre contre Coca-Cola ou même Pepsi.
Voilà, donc il avait réussi à casser le monopole de British Airways. Il s'est dit, je vais faire la même chose avec Coca-Cola. Mais ça n'a pas marché. Et la raison, probablement, c'est qu'il avait pas, il apportait pas quelque chose de nouveau. Autant sur le transport aérien, il avait analysé qu'il y avait une faiblesse dans le service client. Autant sur les sodas, le cola, il s'est lancé un petit peu, peut-être un petit peu trop sûr de lui, en disant j'ai réussi à vaincre British Airways, je vais vaincre Coca-Cola. Mais en fait, là, il s'est un peu heurté à un mur. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à diversifier.
Oui, là, c'est un exemple d'échec.
Voilà, c'est un exemple d'échec. Il y a eu plein de diversifications, plus ou moins réussies. Alors, on peut penser à la téléphonie mobile, on peut penser à la banque, on peut penser à la radio, on peut penser
à Virgin Radio, et qu'on connaît
Radio,
en France.
Voilà, ouais, bien sûr. On peut penser, alors il y a eu les mégastores. Attends, Virgin en France était très connu pour les mégastores.
On connaissait que pour ça presque au début,
souvent,
je crois.
Ouais. Oui, c'est vraiment une stratégie internationale. Hein. Donc selon les pays, on connaît pas forcément Virgin pour les mêmes types de produits, mais en France il y a eu les mégastores pendant très longtemps, et puis après ils ont été fermés parce que avec la baisse des ventes de disques et de livres, ils étaient plus rentables. Mais c'est vraiment une stratégie, je dirais, assez opportune. C'est-à-dire qu'il se lance, s'il sent que dans un secteur il peut, il y a une place à prendre, il essaie de la prendre. S'il sent que le vent a tourné, ou soit que le marché est en train de diminuer, soit qu'il n'a pas su s'implanter, il arrête les frais et il n'hésite pas à se retirer d'un marché quand il sent qu'il s'est mal embarqué, ou qu'il risque de faire des pertes trop importantes.
Mais c'est un modèle assez innovant, assez original comme type d'entreprise, d'avoir comme ça plein de ramifications.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'exemples d'entreprises qui ont une marque unique et qui est déclinée sur tout un tas de produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, puisque souvent les marques se déclinent, mais souvent sur des produits qui restent
adjacents
aussi. Je sais pas, pensons à Apple. Alors ils faisaient des ordinateurs, après ils ont fait des tablettes, des smartphones. On est toujours sur des produits électroniques, donc on reste un peu dans un secteur donné. Lui, c'est vraiment une stratégie originale de partir absolument dans tous les sens avec une marque unique, et cette marque unique, comme on l'a dit, hein, qui est associée au personnage et qui va faire le pitre des aventures devant les caméras pour faire parler de lui.
Oui, tu l'as dit, c'est important. Virgin est étroitement lié à la personnalité de Richard Branson, et il revendique aussi un nouveau type de management.
Oui, alors c'est... Il a un peu un style décontracté, c'est pas du tout le patron à l'ancienne, en costard-cravate, très guindé. Lui il n'a jamais de cravate, il se veut décontracté, proche des gens, accessible, etc. Bon, après, ça reste un milliardaire, j'imagine qu'on n'a pas son contact, son numéro de téléphone comme ça, mais c'est un peu le style qu'il veut donner. Il donne beaucoup de conférences, il écrit des livres, ou bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'aide à les écrire, ça on sait pas trop, mais enfin, il sort beaucoup de livres, il intervient beaucoup dans les médias. Il a ce style qui se veut décontracté et qui cultive et qui met en avant dans les médias. Pour...
Il se dit proche de ses salariés.
Voilà, c'est aussi, alors c'est peut-être vrai dans sa gestion quotidienne des ressources humaines, mais c'est aussi une stratégie marketing, une stratégie, une manière de se montrer et d'une image qu'il a envie de renvoyer.
Et surtout, il ne veut rendre de compte à personne. Virgin lui appartient.
Oui, alors Virgin n'est pas cotée en bourse. Elle a été momentanément dans les années 80 cotée en bourse, mais il l'a très rapidement fait sortir du marché pour en garder le contrôle. Donc il a vraiment cette volonté de garder la main sur son entreprise pour pouvoir décider en fait de toutes les stratégies et de ne pas dépendre d'actionnaires qui viendraient lui dire il faut faire ceci plutôt que cela. C'est vraiment... Richard Branson et Virgin, c'est vraiment... fusionnel, on peut dire. Les deux sont étroitement liés, et la notoriété de l'un rejaillit bien sûr sur la notoriété de l'autre.
Et ils s'engagent beaucoup, enfin un peu comme beaucoup de philanthropes, mais ils s'engagent beaucoup pour des causes.
Oui, alors effectivement, ils s'engagent dans des causes humanitaires, écologiques, etc. Alors d'autres pointent malgré tout ces stratégies d'optimisation fiscale très agressives, ces jets privés, etc. Donc c'est souvent le cas de beaucoup de milliardaires. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont donner de l'argent et de la notoriété à des causes humanitaires ou écologiques. Et puis à côté, ils vont se domicilier dans les paradis fiscaux les plus agressifs, ou les plus paradisiaques pour les milliardaires. Ce qui fait que les États, après, ont moins d'argent pour financer la transition énergétique, l'éducation, etc. etc. Donc, il y a le côté un peu ambivalent du personnage, mais qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs à succès.
Et donc, je le disais en intro de ce podcast, son dernier dada, c'est un peu l'espace. Là, on enregistre ce podcast en juillet. Il vient de réaliser un vol spatial touristique avec Virgin Galactic. Il mise un peu sur l'avenir avec ça.
Oui, donc ça correspond bien au personnage, puisqu'il y a ce côté aventureux où il se lance des défis. Donc il avait essayé de lancer Virgin Oceanic, par exemple, pour faire du tourisme en sous-marin dans les fonds les plus profonds du monde. Bon, ça n'a pas trop marché, parce qu'en termes de sécurité, quoi, c'est très cher et il y a des contraintes de sécurité importantes. Alors, Virgin Galactic et le tourisme spatial, là aussi, ça a été très long. Ça fait au moins 10 ans qu'il en parle, il investit beaucoup d'argent, mais il y a eu des accidents en termes de sécurité. Ça a été très long à progresser. Mais là, effectivement, il a réussi à faire un premier vol. Alors, on retrouve aussi le côté un peu ambivalent du personnage avec le tourisme spatial, puisqu'il s'engage pour des causes environnementales. Le tourisme spatial, en termes écologiques, c'est assez catastrophique, puisque pour le loisir d'un milliardaire ou d'un millionnaire qui va aller faire quelques minutes en apesanteur, il faut griller je ne sais combien de litres de fuel ou de kérosène. Donc là encore, on peut trouver un côté ambivalent du personnage dans le tourisme spatial.
Et il a surtout grillé la priorité à son concurrent.
Voilà, donc il y avait d'autres milliardaires qui s'étaient lancés un peu dans la même idée. Donc on pense bien sûr à Elon Musk avec ses fusées SpaceX et Jeff Bezos, hein, le fondateur d'Amazon, qui lui aussi avait eu un peu cette même idée. Donc c'est un peu actuellement le dada des milliardaires d'essayer de se lancer dans l'espace. Mais c'est vrai que Richard Branson a été pionnier sur cette idée-là.
Alors on peut dire que le personnage de Richard Branson divise, mais il a quand même dépoussiéré le monde des affaires britanniques et il est à l'origine d'un groupe tentaculaire qui n'est pas prêt d'arrêter de faire parler de lui. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Tous nos épisodes sont en écoute sur CDI Podcast évidemment ou alors sur votre plateforme audio préférée. Nous on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait et on vous dit à très vite.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.